Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, cette première émission de la nouvelle année liturgique ainsi que de la nouvelle saison radiophonique est consacrée aux homélies sur le Notre Père de Grégoire de Nice, père de l'Église du IVe siècle, un des trois pères cappadociens avec Basile de Césarée, son propre frère, et l'autre Grégoire, le théologien, connu aussi en Occident plutôt, je dirais, comme Grégoire de Nazianze. Les homélies sur le Notre Père de Grégoire de Nice ont fait l'objet en 2018 d'une nouvelle édition critique accompagnée d'une traduction française dans la collection des sources chrétiennes. Nous recevons aujourd'hui Christian Boudignon, maître de conférence à l'université Aix-Marseille, et Mathieu Cassin, chargé de recherche au CNRS, qui ont élaboré cette nouvelle édition, ainsi qu'une nouvelle traduction à partir de celle qu'avait élaborée Josette Séguin, qui nous a quittés il y a de ça quelques années. Mathieu Cassin, pour commencer, on va situer donc ce texte dans le temps et dans l'espace.
Donc Grégoire, comme vous le rappeliez, est un auteur de la fin du IVe siècle, et les homélies sur le Notre Père, donc cinq homélies, sont plutôt de la fin de son activité, des dernières années 380, 385, 390. Et c'est un groupe d'homélies qui a très visiblement été prêché, prononcé. C'est pas un commentaire savant sur le Notre Père, c'est une prédication sur le Notre Père, même si le texte a été bien évidemment retravaillé, et qui est destiné à un public assez large, pas simplement à des ascètes ou à des moines. Il y a des choses en particulier dans les deux premières homélies qui concernent un public assez ouvert. Je vais vous lire un très bref extrait qui montre bien dans la première homélie la largeur de la cible. « Le boutiquier se lève matin pour son négoce. Il s'efforce d'exposer avant ses concurrents sa propre marchandise aux acheteurs pour devancer les besoins des clients, doubler les autres et écouler son stock. De même aussi, l'acheteur a constamment en vue ce but de ne pas manquer ce dont il a besoin en se laissant précéder par un autre et court, non pas vers l'oratoire, mais vers le marché. » Cela sert d'accroche à Grégoire pour expliquer pourquoi il faut prier, pourquoi il y a besoin de prier dans les différentes circonstances de la vie.
Et on voit bien ici que Grégoire s'adresse à un public très concret, parce qu'on a l'habitude des textes de Grégoire où il est très spirituel, hein, il se laisse aller, et ça, c'est pas ça du tout, il s'adresse, c'est vraiment pastoral, hein, on voit bien que...
Oui, c'est vraiment pastoral. Il y a aussi un aspect beaucoup plus spirituel et qui conduit l'homme jusque vers la contemplation de Dieu et la divinisation et l'assimilation à Dieu. Mais cela s'ancre d'abord et avant tout dans une pratique de pasteur adressée à l'ensemble de ses fidèles.
Christian Boudignon, peut-être une première approche ou peut-être une première vue sur l'ensemble du texte.
Pour avoir une première approche, j'ai choisi de prendre la lecture qu'a fait plus tard Maxime le Confesseur au 7e siècle de ce traité, de ces homélies de Grégoire de Nice. Et Maxime le Confesseur a relu ce texte comme un chemin de divinisation, un chemin en cinq étapes. Si l'on suit donc cette lecture que fait Maxime le Confesseur, surtout à partir de la troisième homélie, voilà les cinq étapes. La première, à partir de la phrase « Que ton nom soit sanctifié », c'est l'invocation de l'aide de Dieu pour guérir de la colère et de la folie du désir. La deuxième étape, à partir de l'invocation du règne, c'est la volonté d'être libéré de la tyrannie du vice, de la corruption, de la mort et du péché. La troisième étape, à partir justement de la demande « que ta volonté soit faite », c'est la volonté de retrouver le premier état de l'âme lors de la création, la santé de l'âme et le bon régime de vie au paradis. Alors, il s'agit en fait ici de retrouver l'état dans lequel Adam se trouvait avant d'être chassé du paradis. C'est là un point essentiel du chemin de remonter depuis la terre où l'homme est exilé vers Dieu. La quatrième étape, c'est celle justement qui tourne de façon paradoxale autour du pain. Grégoire de Nice nous dit que nous ne devons consommer, demander que le pain quotidien. Non pas un pain spirituel, mais le pain quotidien. Il faut la frugalité. Et cette frugalité, c'est se comporter comme les anges. C'est vivre une vie autarcique, comme les anges. On n'a pas besoin de choses extraordinaires. En ce sens-là, l'homme qui se contente de peu imite la vie des anges. Et on atteint le quatrième stade, qui est ici le stade des anges. Enfin, la dernière étape, la cinquième étape, à propos justement de la phrase « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », ici, de façon paradoxale, Grégoire de Nice nous propose de nous donner comme modèle à Dieu. Vois comment j'ai pardonné à mes ennemis et toi, Dieu, pardonne comme moi j'ai pardonné. Là, on est dans un jeu de réciprocité avec Dieu et on devient une partie prenante de la divinité.
On va relever deux points. D'abord, évidemment, cette marche vers la divinisation qui est un thème qui est très, très apprécié par Maxime, hein, ça on le sait. Donc s'il le dit, lui, c'est qu'il voit déjà dans un père du IVe siècle cette idée qui est quand même une constante chez les pères de l'Église. Hein. C'est très important. Et en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, Mathieu Cassin, vous disiez... C'est très pastoral. Alors, il y a ce point sur le pain, justement. Et on sait que très souvent, pour les traductions, ça pose des problèmes, ce artos epiousios. Alors, qui de vous deux veut parler, justement, de ce point, c'est-à-dire ce que Grégoire entend par le pain?
Alors, justement, ici, Grégoire, héritier d'une tradition qu'on attribue à Eustache de Sébasté, donne une interprétation spéciale. Pour lui, le pain epiousios, que l'on traduit le pain quotidien, le pain de ce jour, il le traduit par le pain ephimeros, c'est-à-dire le pain de la journée. Et il faut demander le pain pour aujourd'hui et pas pour demain, pas pour les siècles, mais se contenter de peu. Il y a ici une critique du luxe. Il y a aussi une critique probablement de la spiritualité exagérée que fait Grégoire du traité d'Origène sur la prière, qui commente le Notre Père, et où Origène traduit ce mot par l'idée qu'il s'agit d'un pain essentiel, voire suressentiel. Et cela paraît trop spirituel ou spiritualisant pour Grégoire de Nice.
Voilà déjà chez les pères une première approche des problèmes de traduction que nous avons aujourd'hui pour voir que le terme grec est justement très riche et qu'on peut lui donner plusieurs sens. Alors évidemment, le Notre Père est la prière par excellence puisque c'est le Christ lui-même qui l'a enseigné et on le récite dans tous les offices. Il a été également mis en musique et nous allons entendre ici une version qui est célèbre dans le monde orthodoxe, de tradition plutôt russe je dirais. Et c'est une composition de Nikolaï Kedrov qu'interprète ici la chorale Saint-Jean d'Amasène sous la direction de Serge Sauré.
Thank you.
après cette interprétation de Notre Père, composée par Nicolas Kedrov-Père et interprétée ici par la chorale Saint-Jean d'Amasène sous la direction de Serge Sorel, nous revenons à notre entretien avec Christian Boudignon et Mathieu Cassin sur les homélies sur le Notre Père de Grégoire de Nice, à l'occasion donc de l'apparition de ce volume dans les sources chrétiennes. On est en pleine ascension spirituelle, Mathieu Cassin, ici.
Oui, tout à fait. L'itinéraire que Christian rappelait tout à l'heure à partir de la lecture que Maxime le Confesseur fait des homélies, c'est un fil qu'il faut toujours tenir en même temps que celui beaucoup plus quotidien, beaucoup plus concret que j'évoquais au début ou que Christian évoquait de nouveau à propos du pain quotidien, du pain de la journée, qui est la lecture que fait Grégoire du pain épiousios. Et c'est pourquoi j'ai resitué très rapidement dans la chronologie de la vie de Grégoire le texte, mais cette chronologie n'est pas juste un anecdotique, c'est pas simplement une histoire de date. Ces homélies sur le Notre Père, on a pu à peu près le montrer dans l'introduction de l'édition, se situent après la rédaction de la vie de Moïse, avant la rédaction des homélies sur le Cantique de Grégoire, et donc dans une série d'écrits où cette dimension de l'ascension spirituelle, de la montée progressive de l'homme vers Dieu jusqu'à s'assimiler parfaitement à lui, est un point fondamental et un point qui rejaillit de différentes manières au fur et à mesure des homélies, bien sûr, entre autres à propos de l'appellation Père elle-même.
Alors justement, l'appellation Père, c'est qui le Père ?
Alors le Père, bien sûr, dans la prière, c'est Dieu. Et en même temps, Grégoire a quelques développements à plusieurs moments des homélies où il montre que la personne à qui on s'adresse dépend de la vie de l'homme qui prie. Alors, il resitue cela dans une perspective qui est celle de la théologie trinitaire et des réflexions qu'il a menées auparavant dans les controverses contre Nôme sur qu'est-ce que cela veut dire être père, être fils et quelles relations cela implique au sein de la Trinité. Il reprend d'ailleurs des passages très brièvement de ces développements contre Nôme et il resitue cela dans son exposé pour l'appliquer aux hommes, fils adoptifs, et en disant si... Vous pouvez dire, pour pouvoir dire père, il faut que vous soyez de même nature que celui à qui vous vous adressez. Si vous êtes fils, c'est que vous êtes de même nature que votre père. Alors bien évidemment, vous ne l'êtes pas, mais il faut que vous soyez en train de faire effort pour aller vers ce père. Je vais vous lire un tout petit extrait qui est très explicite. Il dit « Si vous ne faites pas cela, en fait, ce n'est pas à Dieu que vous vous adressez, mais au diable, alors même que vous croyez prier. » C'est dans la deuxième homélie. Veux-tu connaître ces propriétés caractéristiques du mauvais ? L'envie, la haine, la calomnie, la vanité, la cupidité, le désir passionné, la maladie de la folle gloire, voilà entre autres le genre de signes par lesquels la forme de l'adversaire s'imprime. Donc, celui qui a l'âme marquée au fer rouge par de telles taches, quand il appelle père, quel père l'exaucera ? Bien évidemment, ce sera celui qui a une parenté avec celui qui l'a appelé. Et ce père n'est pas le céleste, c'est l'infernal, car c'est celui dont il porte les signes d'apparentement qui réclamera en tout cas sa propre parenté. Donc la prière de l'homme mauvais, tant qu'il demeure dans le mal, est une invocation du diable, tandis que la voix de qui s'est retiré du mal et vit dans la bonté appellera le père bon.
Christian Boudignon,
oui. Alors oui, je voudrais réagir là-dessus, puisque à la fin du texte, on a une interprétation tout à fait originale de Grégoire de Nice de la phrase « Ne nous soumets pas à la tentation ». Il faut savoir que Grégoire de Nice, ici, connaît la différence qui existe dans certaines éditions, celle notamment qu'avait déjà Origène, entre le texte de Luc et le texte de Matthieu. Dans le texte de Luc, la prière s'arrête à « Mais délivre-nous de la tentation ». Et ne nous soumet pas à la tentation, ou ne nous laisse pas entrer en tentation, et il n'y a pas dans le texte de Luc « Libère-nous du mal ». Devant cette question, Grégoire de Nice a une solution pour expliquer l'absence du fait qu'il n'y ait pas justement la dernière demande dans le texte de Luc. Voilà ce qu'il dit. Il dit « Ne nous livre pas la tentation » signifie la même chose que « délivre-nous du mauvais ». Non pas du mal, mais « délivre-nous du mauvais ». Pour lui, le mot « tentation », c'est un des nombreux noms du diable comme Belzéboul, Mammon, prince du monde, mauvais, père du mensonge, homicide, etc. On a là une interprétation tout à fait originale et savoureuse de Grégoire.
Oui, qui fait de la critique en même temps parce qu'il compare deux textes de l'Évangile.
Tout à fait.
Ça, on voit bien qu'on peut être à la fois savant et spirituel et faire de la vraie théologie. L'un n'empêche pas l'autre. Alors, on va passer à d'autres idées, à d'autres points que vous jugez importants dans la lecture de ce texte de Grégoire de Nice sur le Notre Père, qui est évidemment un texte inépuisable.
Oui, c'est un texte inépuisable. Et ici, Grégoire de Nice fait une critique très violente des usages de son temps. Il critique les riches pour leur luxe excessif, mais surtout, il critique dans une société qui connaît l'esclavage, l'usage de l'esclavage. C'est une vaste question, il est difficile en quelques minutes d'y répondre, mais je voudrais simplement signaler que, à propos de la question, justement, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, littéralement, remets-nous nos dettes, Grégoire va parler de l'usure, du prêt à intérêt. Or, dans l'Antiquité, le prêt à intérêt conduisait très souvent ceux qui ne pouvaient pas s'en acquitter, qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes, à devenir esclaves. Et dans ce cadre-là de l'esclavage, justement, je voudrais lire un petit texte où Grégoire condamne la division de l'humanité en deux, entre esclaves et maîtres. Et il critique aussi la colère des maîtres contre les esclaves. Il s'adresse aux maîtres. On te fait du tort à coup sûr. On a un accès de violence. Un serviteur se conduit méchamment. On veut te tuer physiquement. Alors toi, pour te défendre de cela, tu t'excites par l'échauffement de ton cœur et tu ne cherches qu'à te venger de ceux qui t'ont fait du tort. Tu ne réfléchis pas si ta colère t'échauffe contre un serviteur, que ce n'est pas la nature, mais la domination qui a scindé l'humanité en esclavage et en maîtrise. Donc ici, l'esclavage est condamné comme quelque chose de contre-nature. Et d'une façon très savoureuse, encore une fois, Grégoire ajoute qu'on devrait se souvenir que nous aussi, nous avons été comme des esclaves qui s'enfuient loin de leur maître quand nous sommes partis loin du domaine du maître, c'est-à-dire du paradis.
Et là aussi, il y a une lecture théologique, une lecture spirituelle et en même temps une lecture sociale, je dirais.
Tout à fait.
Il y a de la critique sociale qui est tout à fait évidente. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport aussi avec son frère Basile qui a tellement œuvré dans la pastorale et le côté social, mais on voit Grégoire, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de texte chez les pères de l'Église et Grégoire en particulier qu'on connaît d'habitude par des textes extrêmement spirituels. Mathieu Cassin, oui.
Oui, on le connaît pour les textes spirituels, mais il y a aussi une série d'homélies morales de Grégoire, dont deux sur les pauvres, une autre contre les usuriers, où il prolonge directement la prédication effectivement de son frère Basile, donc sur la critique du luxe, du mauvais usage de l'argent, de l'incompatibilité entre le fait d'être chrétien et le fait de laisser des hommes, nos frères, dans un état de pauvreté et d'abjection qui n'est pas digne de l'humanité. Mais effectivement, là où il va sans doute un pas plus loin que Basile, c'est dans cette condamnation en soi de l'esclavage. C'est-à-dire que Basile cherche à remédier aux situations de pauvreté. Grégoire dit, dans la nature humaine et dans le plan du salut, l'esclavage ne peut pas avoir de place. Alors il ne va pas jusqu'à appeler à l'abolition de l'esclavage, c'est pas un abolitionniste, mais en revanche il dit qu'il est incompatible avec un véritable christianisme.
Oui, c'est pas une révolution, Christian Boudignan, oui.
On peut ajouter que cela s'inscrit dans les débuts du monachisme. Grégoire de Nice est un des représentants, avec son frère, et évidemment, Basile de Césarée, des débuts du monachisme en Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, autour d'un personnage mal connu qui s'appelle Eustate de Sébasté. Et on sait qu'ils avaient eu dans leur domaine, dans le nord de la Turquie, une expérience ascétique où certains serviteurs avaient été libérés.
Écoutez, nous allons terminer par quelque chose de très poétique, je dirais, puisque Grégoire lui-même donne ce texte qui est une sorte d'hymne à la prière. Je crois que vous l'appelez hymne à la prière. Alors je vous demande de le lire, je ne sais pas comme vous voulez, peut-être on va faire l'antiphonie, hein, verset par verset.
Hymne à la prière. La prière est sauvegarde de la tempérance, redressement de la colère, répression de la vanité, purification de la rancune, destruction de l'envie, suppression de l'injustice, correction de l'impiété.
La prière est force des corps, prospérité de la maison, bonne administration de la cité, puissance du royaume, trophée de guerre, sécurité dans la paix, réunion de ceux qui sont séparés, permanence du lien pour ceux qui sont unis.
La prière est sceau de la virginité, fidélité des époux, arme du voyageur, gardienne de ceux qui dorment, courage de ceux qui veillent, fertilité pour les agriculteurs, salut des marins.
La prière est défense de ceux qui sont jugés, délivrance des prisonniers, soulagement des malades, consolation des affligés, allégresse de ceux qui se réjouissent, encouragement pour ceux qui se lamentent, couronne des mariés, fête pour les naissances, linceul des morts.
La prière est conversation avec Dieu, contemplation de l'invisible, accomplissement plénier des désirs, égalité d'honneur avec les anges, progrès dans le bien, détournement loin du mal, correction des péchés, jouissance du présent, réalité des biens espérés.
Écoutez, avec cette phrase merveilleuse qui est tirée de l'Épître aux Hébreux, et donc on finit l'hymne à la prière donc de Grégoire de Nyssa dans les homélies sur notre Père. C'était donc une émission sur ce texte qui vient d'être édité au Souscatienne, c'est 596. Nous étions avec Christian Boudignon et Mathieu Cassin. Merci beaucoup. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Olivier Dupré. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.